Radio Kapi. Oh, Kapi.
Reprise des combats ce matin dans le territoire de l'Oubero au Nord Kivu entre les FARDC et le M23 soutenu par le Rwanda. Les affrontements ont repris sur plusieurs fronts après plusieurs jours d'accalmie. La vice-ministre de l'Intérieur du Kassai Oriental a tenu une parade hier en Mbujimayi au commissariat provincial. Soyez vigilants et contrôlez tous les mouvements pendant cette période où le pays est en guerre. C'est l'essentiel de son message aux policiers. L'invité de ce journal, c'est Jean-Louis Kambalé. Il est le directeur et psychologue clinicien au sein de la clinique neuropsychiatrique Sainte-Croix de Moulo, section de Beni, au Nord Kivu. Bonjour à tous. À la présentation de ce journal, Noéla Luzitu Kabambi. Au Nord Kivu, les combats entre les FARDC et le M23 soutenu par le Rwanda ont repris ce mardi matin dans le territoire de l'Oubero sur plusieurs fronts après plusieurs jours d'accalmie. Selon des sources locales et sécuritaires, des affrontements sont signalés dans plusieurs villages, notamment à Mambasa, Ndoluma et Lubango. Cette situation provoque un nouveau déplacement des populations vers des zones jugées sécurisées. André Kitenge.
C'est vers 4h ce matin, heure locale, que des affrontements ont éclaté entre les FARDC appuyés par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon des sources locales et sécuritaires, les rebelles du M23 ont attaqué 4 positions des FARDC sur l'axe routier Mambasa-Ndoluma, ainsi que sur les axes Mambasa-Lubango, Mambasa-Mutongo et Bingi-Mutongo à environ 60 km de l'Oubero centre. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à Kanyabayonga et Kirumba, rapportent les mêmes sources. D'autres combats sont également signalés à Butsorovia, au sud de l'Oubero centre. Des sources sécuritaires confirment ces affrontements sans plus de précision. Face à cette nouvelle escalade, un déplacement des populations est observé vers des zones jugées plus sûres, indique la société civile locale. La tension demeure vive dans la région selon des sources locales qui font état de renforts en hommes et en munitions des deux côtés. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ce temps, la vie reprend peu à peu son cours au sud Kivu. Au moins 2 grands bateaux ont quitté le port de Bukavu ce mardi matin à destination de Goma au Nord Kivu. C'est à la suite de la décision annoncée par la rébellion de la reprise des voyages lacustres entre Goma et Bukavu 24h/24. À Goma, les armateurs affirment aussi se préparer pour quitter ce soir la ville pour Bukavu. D'autres détails avec vous, Élisée Chikota.
D'après ces armateurs, jusqu'ici, aucune mesure particulière ne leur a été communiquée, mais certains cadres du mouvement étaient au port pour s'assurer de l'effectivité de cette reprise. Ces derniers ont demandé aux armateurs de s'organiser avec les services publics pour organiser les voyages, indiquent nos sources. Tout compte fait, cette reprise du trafic lacustre était trop attendue par la population qui était contrainte de passer par le Rwanda pour se rendre à Bukavu. Plusieurs observateurs considèrent que cette reprise est une bouffée d'oxygène pour la population dans la mesure où elle va faciliter l'approvisionnement tant soit peu pour l'acheminement des denrées alimentaires entre les deux villes. Pour rappel, ce trafic lacustre avait été suspendu par les autorités du site Kivu quelques jours avant la prise de la ville de Goma.
Toujours à Bukavu, 39 blessés par balle ont été reçus entre vendredi et hier lundi à l'hôpital provincial général de référence de la ville, soutenu par le CICR. Ces 39 blessés se rajoutent à d'autres qui se trouvaient déjà à l'hôpital général pour faire un total de 176 blessés hospitalisés. C'est un reportage de Rachel Kiesembango rendu par Alain Irung.
Ces 39 blessés de Bukavu se rajoutent à d'autres blessés venus de Calais et Kabare où les affrontements avaient débuté avant Bukavu. D'autres provenaient même de Goma pour faire un cumul de 176 blessés à ce jour. C'est ce que précise le CICR dans un communiqué de presse publié ce mardi matin. Hier lundi, la Croix-Rouge de la RDC avec le soutien du CICR a procédé au ramassage des corps dans différentes parties de la ville de Bukavu. Selon François Moreillon, chef de délégation du CICR en RDC, au total 26 corps ont été ramassés par les volontaires de la Croix-Rouge ce lundi. Il promet que l'opération va se poursuivre. Rappelons qu'il y a eu 2 décès parmi les blessés, signale le CICR. Ils sont amenés à la morgue pour permettre à leur famille de les identifier avant de procéder à leur enterrement digne et sécurisé.
Le Programme alimentaire mondial PAM condamne à travers un poste sur son compte X le pillage de ses entrepôts dans la ville de Bukavu. Le PAM affirme que les vivres essentiels stockés étaient destinés à fournir un soutien vital aux familles les plus vulnérables qui sont désormais confrontées à une crise humanitaire croissante. Ce pillage est intervenu vendredi et samedi dernier avant l'entrée du 1-23 dans la ville de Bukavu. Malgré cela, le PAM dit être prêt à reprendre l'aide alimentaire essentielle aux plus vulnérables dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. Il appelle toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. La vie devient de plus en plus difficile pour les habitants de la ville de Goma, alerte-t-il. Au regard de ce qui se passe, il compare la situation actuelle à une prison à ciel ouvert, selon leurs propres mots. Nombreux sont ceux-là qui ne savent plus comment survivre à cette crise sans précédent. Avec la reprise des activités scolaires hier lundi, certains parents s'interrogent sur leur capacité financière pour payer les frais scolaires, d'autant qu'ils ne disposent pas d'accès à leur compte bancaire. Jusqu'ici, toutes les banques restent fermées. On écoute ce cri d'un parent qui décrit la situation actuelle à Goma.
On ne veut pas que les fonctionnaires puissent sortir de la ville de Goma. Vous arrivez au niveau de la grande barrière, soit on vous retourne, soit au niveau de Gichène, là, on vous met dans un cachot. Aucune banque ne fonctionne actuellement. Si vous avez par exemple quelque chose dans votre compte M-Pesa, Airtel Money ou quoi que ce soit, dans les shops là-bas, soit vous donnez les 10% de ce que vous allez retirer, et puis on vous donne à un taux de 25 000 francs congolais. Nous sommes des parents, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Nous ne savons pas comment nous y prendre ici au niveau de Goma. Nous sommes bloqués comme si nous étions dans une prison à ciel ouvert. Même les familles ne savent pas comment trouver quelque chose à manger, donc on ne sait pas bouger. Les enfants ont repris timidement l'école. En tant que parents, nous ne savons pas comment nous allons nous y prendre pour payer les frais scolaires des enfants. Toutes les banques sont fermées, nous ne travaillons plus. Nous sommes restés à la maison pratiquement dans 10 jours, ici ça fera un mois. Les choses s'empirent du jour au lendemain. Donc c'est difficile, la vie est intenable ici au niveau de Goma. Nous sommes en difficulté totale.
Notez que le couloir humanitaire est désormais ouvert dans la région de Goma, permettant l'acheminement de l'aide essentielle aux populations dans le besoin. Annonce faite le samedi 15 février par le ministère de la Santé publique sur son compte X. Déjà la veille, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, annonçait qu'un corridor humanitaire était en négociation. L'OMS a obtenu un accord pour acheminer du matériel via Nairobi et Kigali. Le ministère va envoyer des kits de traumatologie et des médicaments via les organisations humanitaire pour renforcer la prise en charge des blessés à Goma, selon Roger Kamba. D'après lui, les hôpitaux de Goma ont enregistré 4260 blessés depuis l'attaque de cette ville par le 1-23 soutenu par le Rwanda. Cette attaque a mis à rude preuve le système sanitaire congolais. 2 millions de dollars américains sur le fonds mobilisé par OCHA pour assister plus de 100 000 personnes déplacées internes qui vivent dans des conditions de précarité dans la province du Kwilu. Il s'agit des personnes qui ont fui leur milieu de vie à la suite de la persistance des hostilités perpétrées par la milice Mobondo, notamment dans les territoires de Kwamut, dans la province de Maïndombe. Le chef d'antenne de OCHA à Bandundu, Ngongo Selemani, l'a annoncé le week-end dernier à Bandundu lors du lancement du projet Réponse multisectorielle d'urgence et d'appui à la résilience des déplacés dans les zones de santé de Bandundu et de Bagata au Kwilu, projet patronné par l'ONG Cause Rurale. Plus de détails avec Irène Bomaluzolo.
Selon les chefs d'antenne de OCHA à Bandundu, ces 100 000 déplacés se trouvent notamment dans la zone de santé de Bagata, celle de Kikongo et de Bandundu au Kwilu. Dans le cadre de son mécanisme de mobilisation des ressources en faveur des populations congolaises victimes de crises humanitaires, sa structure AI a mobilisé au nom des Nations Unies une somme de 2 millions de dollars américains pour couvrir certains secteurs de vie de ces personnes en détresse. Ngongo Selemani.
Nous avons 4 organisations humanitaires qui ont bénéficié de cette somme d'argent. L'ONG internationale Magna va s'occuper de la lutte contre les violences basées sur le genre. Caritas Congo pour améliorer l'accès à l'eau potable à ces personnes. Nous avons le partenaire national ADSS qui va construire des abris à ces personnes. Lorsque nous sommes passés dans ces entités, nous avons trouvé surtout à Manzasai ces personnes occupées des salles de classe. Et nous avons le partenaire Cause Rurale pour faire en sorte que ces personnes vulnérables puissent ne pas trop dépendre de l'assistance, mais à développer des activités agricoles pour se prendre sur le plan alimentaire en charge.
Ngongo Selemani ajoute que ces quatre projets viennent compléter celui d'IPAM en cours qui consiste à distribuer des cash auprès de ces déplacés. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Soyez vigilants et contrôlez tous les mouvements pendant cette période où le pays est en guerre. Propos ce lundi de la vice-ministre de l'Intérieur à la parade qu'elle a présidée en Mbujimayi au commissariat provincial du Kassai Oriental. Esther Ndalafina nous fait le point.
Après son arrivée en Mbujimayi, Eugénie Tshiela s'est d'abord entretenue avec le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwe Kapo. Elle s'est ensuite rendue au commissariat de la police nationale congolaise où elle a présidé la parade. Devant les agents de police, Eugénie Tshiela leur a demandé d'être vigilantes car le pays est en guerre. Signalons que le Kassai central constitue la deuxième étape de la mission de la vice-ministre de l'Intérieur. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, l'Office congolais de contrôle OCC, agence de Mahagi, ne dispose pas de scanner pour inspecter la nature des marchandises sur une cargaison à la douane. Une situation pénalisante pour ce service de l'État. Conséquence, certaines marchandises prohibées et importées des pays voisins se retrouvent sur les marchés congolais. Sadiq Aboubakar revient de Mahagi. Voici son reportage.
Des sources internes de l'OCC Mahagi rapportent que leur service ne dispose pas de scanner, appareil capital pour inspecter les marchandises sur une cargaison déclarée à la douane. L'inspection des marchandises se fait à l'œil nu, une inspection superficielle qui ne se limite qu'aux marchandises visibles dans une cargaison. Conséquence, plusieurs produits prohibés entrent illicitement dans le pays. C'est le cas des boissons fortement alcoolisées, dont la vente est pourtant frappée d'interdiction au Congo. Ces produits, qui ne changent que d'emballage, contiennent jusqu'à 45% d'alcool et se vendent moins cher. Au-delà du défi du contrôle minutieux au niveau de la douane, un deuxième contrôle devrait se faire lors du déchargement de ces marchandises à leur lieu de destination. C'est là, en présence notamment de la DGDA, l'OCC et même des services de sécurité. Cependant, cela est loin de résoudre ces problèmes, déclare un acteur socio-économique de Mahagi. Des retours de Mahagi, Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Au Congo central, lancement hier lundi à Matadi de l'atelier de renforcement des capacités des membres de la cellule provinciale du climat des affaires. Cette formation est organisée par le ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Selon Michel Manswapi, directeur en charge du climat des affaires à l'ANAPI, cet atelier permet d'outiller la cellule provinciale du climat des affaires du Congo central avec des instruments pour initier des réformes dans ce domaine. Michel Manswapi explique le bien fondé de cette formation dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Nous avons besoin des réformes qui sont structurelles et des réformes systémiques pour permettre à faire avancer les activités économiques dans notre très chère province du Congo central. Et puis nous allons échanger avec eux, comme relais de l'ANAPI en province, qu'ils arrivent à mieux élaborer la feuille de route provinciale. Donc ils essayent au niveau du gouvernement provincial, il y a des projets dédiés et au niveau des assemblées, nous avons des propositions dédiées. Donc cette cellule va en fait permettre, aider le gouvernement provincial à avoir une feuille de route complète et cette feuille de route sera d'ici 2-3 semaines transformée en assignation ministérielle. Ça va permettre que la cellule et d'autres structures mettent en place les différentes réformes opérées pour permettre à la province de se retrouver à la province d'assainir l'environnement des affaires et des investissements.
L'invité. Parmi les principales causes des troubles mentaux chez certains individus figure la gestion des finances, selon des spécialistes. Ces derniers affirment que ce mal s'observe surtout en début d'année, au sortir de la période des festivités de fin d'année, qui voit les familles vider leurs économies pour célébrer la Noël et le Nouvel An. C'est ce qu'explique Jean-Louis Cambalé, directeur et psychologue clinicien au sein de la clinique neuropsychiatrique Sainte-Croix de Moulo, section de Béni. Il est l'invité de Radio Okapi et il s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Jean-Louis Kambale Kaoundé, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle de votre structure ici?
La situation aujourd'hui que nous traversons, c'est de notre structure qui est un centre neuropsychiatrique et que nous traversons un engouement des patients. Par exemple, quand nous avons essayé de faire des analyses vers la fin de l'année 2024, nous avons constaté que par rapport aux années passées, les effectifs des patients ont doublé énormément.
Et quand vous voyez à la fin de l'année, comment expliquez-vous le nombre élevé de ces patients?
Exactement. Et ça, c'est un constat que nous avons constaté, permettez cette pathologie que nous avons constaté depuis quelques années. C'est presque vers la fin de l'année que nous connaissons un engouement très élevé comme ça des patients. Alors, quand nous avons essayé de faire les analyses par rapport aux causes, nous avons remarqué que les causes premières seraient les festivités des fêtes de l'année où les gens gaspillent pêle-mêle un pays vers le mois de janvier et février. La plupart, ils sont appauvris, ils se sont donnés à Noël pour les enfants et puis Nouvel An. Et puis cet excès de consommation fait qu'à un moment, ils se retrouvent pauvres et ils ne sont plus comment maintenant se tenir.
Comment se manifestent ces troubles chez ces personnes?
Quand ils arrivent, vous verrez que la plupart, ils sont animés par les sentiments de culpabilité. Il y a ceux qui ne trouvent même plus de sommeil, il y a ceux qui se comportent bizarrement, il y a ceux qui sont entrés dans l'anorexie, il y a ceux qui font même le mutisme ou qui ne veulent même plus voir les autres ou se confier aux autres, ils préfèrent s'isoler.
Le mutisme, pourquoi?
Oui, le mutisme, c'est parce que la personne semble un peu déçue et ne veut plus parler en personne parce qu'il pense que peut-être les autres vivent mieux qu'ils préfèrent maintenant se taire.
Alors, Jean-Louis Kambale Kaoundé, quel conseil donnez-vous à la population pour éviter de tomber dans ces travers?
Merci beaucoup pour la question. À la population ou à la communauté qui est en train de me suivre pour le moment, je crois que nous devons consommer rationnellement. Par exemple, quand nous festoyons, consommons rationnellement tel que je l'ai dit, en comprenant que la vie ne s'arrête pas là. Et ça sera vraiment une bonne manière aussi de nous prévenir pour des crises pareilles. Par exemple, quand vous avez 100 dollars, et puis vous consommez tout parce que c'est Noël ou c'est bonne année. Et le lendemain, maintenant, comment vous allez survivre? Est-ce que vous n'allez plus manger? Vous n'allez plus vous vêtir? Et quand vous tombez malade et qu'on sort, comment vous allez vous comporter? Dépensons d'une manière rationnelle. D'une manière générale, les effectivités par rapport aux années passées sont en train d'augmenter du jour au lendemain. C'est aussi par rapport à tout ce que nous vivons. Donc ça, c'était vraiment un accent particulier parmi les analyses que nous avons menées depuis les années. Mais si les vraies causes des effectifs très élevés sont dues à la situation de guerre que nous traversons, avec les différents traumatismes que chacun a vécu, perte des êtres chers, perte de logis, et différentes formes de violence qu'on a subies, c'est tous ces enfrelants qui augmentent les effectifs. Donc le cas particulier que j'ai donné, c'était par rapport aux observations à la fin de l'année.
Comme vous le dites là, ce sont des observations à chaque fin de l'année ou à début de l'année, parce que c'est là que vous avez ces effectifs. Au moins, à chaque année, vous pouvez avoir combien de malades qui sont touchés par ces cas.
Ce qui nous a amené à faire des analyses, c'est parce que nous avons vu que ça arrive plus fréquemment. Et selon les analyses que nous avons maintenant et les études que nous avons maintenant, en tout cas, nous avons remarqué qu'au moins presque 70% des cas que nous recevons sont des cas qui ont développé des troubles parce que c'est lié à ce facteur-là.
Cette année, par exemple?
Au mois de janvier seulement, les nouveaux cas, donc les cas qui se sont présentés pour la toute première fois, nous avons reçu 40 cas. Alors que les années passées, au moins la moyenne, c'était 25 au plus 30. Donc vous sentez que, en tout cas, déjà ça commence trop mal.
Alors pour finir, la thérapie repose sur quoi dans ces cas?
Étant donné que l'homme aussi a différentes dimensions, notre thérapie est toujours basée dans ce que nous appelons approche holistique. C'est-à-dire, quand nous recevons un cas pareil, nous venons d'analyser les causes, un pied, comme nous avons des psychologues cliniciens, nous avons le médecin et nous avons des infirmiers. Dans cette approche holistique, c'est-à-dire, et nous prenons l'homme dans sa dimension organique, nous le prenons aussi dans sa dimension psychologique, dans sa dimension sociale, mais aussi dans sa dimension spirituelle. C'est dans la dimension sociale que nous allons amener maintenant les gens, comment ils peuvent consommer d'une manière rationnelle, donc d'une manière équilibrée, quoi.
Jean-Louis Kambale Kaoundé, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi. La mise en onde est assurée par Alain Goy. La coordination est de Élisée Chikota, supervisée par Alain Hiron. Merci de nous avoir suivis.